Voilà, donc nous allons passer 2 semaines, ce dimanche et dimanche prochain, où nous allons passer un moment dans Marc chapitre 13. Pourquoi 2 semaines? Parce que c'est un chapitre qui est assez difficile. Si vous regardez, par exemple, le titre que vous avez au début de Marc 13 dans vos Bibles, si vous regardez, vous avez quelque chose qui est écrit comme la destruction de Jérusalem et quelque chose. Par exemple, le mien dit la destruction de Jérusalem et l'avènement du Fils de Dieu. Qu'est-ce que vous avez écrit dans vos Bibles comme titre pour Marc chapitre 13?
Discours sur le mont des Oliviers.
Okay. Bon, il y en a qui ont destruction de Jérusalem et la fin du monde. Destruction de Jérusalem et le retour du Christ. Donc, on trouve qu'il y a pas mal de différentes, disons, manières de regarder ce qui se passe dans Marc chapitre 13. D'abord, j'aimerais juste aujourd'hui vous faire un petit survol de ce passage en regardant, en examinant beaucoup le passage, d'accord? Beaucoup de choses que nous entendons au niveau de retour du Christ, et Jésus va revenir un jour, c'est ça qu'il a promis. Revenir pour ressusciter les morts et pour aussi juger les vivants et les morts. Jésus va revenir, mais la question que je veux poser en regardant ce chapitre, est-ce que c'est cela que Jésus est en train de parler quand il traite le sujet ou la question des apôtres dans Marc chapitre 13? Ce que j'aimerais qu'on fasse d'abord, c'est qu'on va lire le texte, ok? Et le texte est assez long. Mais je veux que vous lisiez cela en pensant effectivement à la question qui est posée et puis finalement les réponses que Jésus va donner, en sachant que nous sommes en train seulement d'entamer le texte aujourd'hui. Donc on commence ici avec lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde quelle pierre, quelle construction. Jésus lui répondit, Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Juste pour vous dire, donc, ils vont quitter le temple. Vous vous souvenez que Jésus avait vu la dame qui a mis de l'argent, les 2 pièces dedans. Il avait donné des discours. Il y avait plein de questions qui étaient là-dedans. Et maintenant, en quittant, on regarde cette construction. Une construction d'Hérode il avait commencé même avant la naissance de Jésus. Donc, c'était en 17 avant Jésus-Christ. Qui a duré jusqu'à l'année 65-66 après que Jésus monte au ciel. Donc c'est une construction du temple qui dure longtemps. Et il faut savoir aussi que vous pouvez aller aujourd'hui à Jérusalem et vous pouvez voir à l'extérieur les murailles qui étaient de l'époque d'Hérode. Les murailles qui sont là pour l'esplanade, ce sont pas les murailles du temple, mais qui nous donnent une idée de la grandeur. Et on entend, en lisant les écrits de l'époque, qu'il y avait des pierres qui mesuraient 25 mètres de long, 5 mètres de hauteur, et puis plus de 2,5 mètres de largeur. Et comment ils ont pu déplacer ces différentes choses, aucune idée, mais juste que vous sachiez que c'était un énorme, certaines pierres qui étaient là. Et donc, c'était aussi un bâtiment qui était entièrement le bâtiment même, fait en marbre, et qui était couvert, en tout cas, le haut était couvert d'or, en or. Donc, c'était considéré comme l'un des bâtiments les plus importants et splendides de l'Antiquité. Et même quand Tite est venu contre la ville de Jérusalem, l'année 69 et 70, pour assiéger la ville, il n'a pas voulu détruire le temple. Il a voulu que le temple soit pris et gardé. Mais puisque la bataille était si féroce, puisqu'il y avait des barricades en bois, et puisque, comme j'ai dit, la résistance était si grande, et les soldats romains étaient si cherchait tellement de vengeance parce que les Juifs qui défendaient l'esplanade du temple étaient, bon, ils se donnaient à 100%, donc à cause de cela, le temple a été brûlé. Mais c'était pas l'intention. Alors, nous passons au verset 3. Jésus s'assit sur le mont des Oliviers en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en privé cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe annonçant la fin de toutes ces choses ?» Jésus se mit alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom et diront, « C'est moi !» et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne vous alarmez pas, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura par endroits des tremblements de terre, il y aura des famines. Ce sera le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre le parent et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, donc c'est dans Daniel chapitre 9, établie là où elle ne doit pas être, que le lecteur fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas et ne rentre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver, car ce seront des jours de tribulation tels qu'il n'y en a pas eu jusqu'à maintenant de semblance depuis le commencement du monde, que Dieu a créé et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là. Ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront des signes et des prodiges pour égarer, si possible, les élus. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout prédit. Mais dans ces jours, après cette tribulation, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel, et les puissants qui sont dans les cieux seront ébranlés. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Alors il enverra ses anges et rassemblera ses élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Recevez l'enseignement de la parabole du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche. Il est à la porte. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, même pas les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce sera le moment. Il en sera comme d'un homme qui part en voyage, laisse sa maison, donne pouvoir à ses serviteurs, à chacun sa tâche, et commande au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve endormi. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Bon, voilà, c'est le discours. Et vous avez déjà fait plus que beaucoup de gens qui ont déjà essayé de comprendre. Vous avez lu du début jusqu'à la fin ce texte. Et c'est quand même un texte fascinant qui nous fait poser beaucoup de questions. Il faut savoir que ce discours se trouve dans 3 évangiles. Donc, c'est dans Matthieu chapitre 24, dans Marc 13 que nous venons de lire, et aussi dans Luc 21. Et chaque fois que nous lisons, nous allons voir que le discours suit plus ou moins le même thème. C'est, les mots ne sont pas identiques. Probablement, nous dit que Jésus a passé un bon moment à expliquer à ses disciples ses enseignements concernant leurs questions. Nous savons aussi que les questions posées, ici c'est une personne qui a posé la question, Jésus répond, et puis après ce sont les 4 qui vont venir à Jésus, et Jésus va répondre à eux, et à un moment donné, il dit à tous, donc, et nous pouvons penser que ce sont tous les disciples qui sont en train d'écouter à ce moment-là. Donc le texte est très riche, c'est un texte, comme j'ai dit, qui se trouve dans tous ces endroits, et vous pouvez les mettre ensemble pour comprendre un peu mieux quelle est la question. Il y a 3 visions du passage que nous pouvons voir, et ce sont 3 manières traditionnelles de regarder le passage. La première chose, c'est que l'enseignement dans tout Marc chapitre 13 est une réponse à la question concernant la destruction de Jérusalem. Et quand on parle de « et quand est-ce que toi tu viendras ?», c'est-à-dire quand toi, Jésus, tu viendras en jugement contre Jérusalem. Il faut savoir ce que Jésus est en train d'enseigner est un accomplissement des prophéties qui sont données dans Daniel chapitre 9, 10, 11, etc. Vous pouvez lire là-dessus. Et puis vous voyez que Jésus va utiliser souvent le même vocabulaire que Daniel a reçu de Dieu pour décrire ce qui allait se passer après la mort du Messie. Et donc, il y a qui pensent que tout cela parle de la destruction de Jérusalem, qui va se passer l'année 70 par un prince qui vient, qui s'appelle Titus. Titus va venir et lui, avec ses armées, va détruire Jérusalem. C'est le même Titus qui va devenir l'empereur de Rome, mais seulement pendant une courte période de temps. Il y en a qui pensent qu'ici, nous avons un discours qui parle de la fin du monde. C'est-à-dire, du début jusqu'à la fin, ce que nous avons, c'est que nous avons un enseignement qui parle de Jésus qui viendra, et donc pour juger et pour régner sur la terre. Et puis, il y en a d'autres qui pensent que certains versets parlent de la destruction de Jérusalem, et d'autres parlent de la fin du monde, et que tout a été un peu mélangé, et puis c'est à nous de savoir lequel est lequel. Je vais juste vous vendre la mèche. Il y a très peu de personnes qui pensent que c'est le deuxième, que le discours depuis le début jusqu'à la fin parle de la fin du monde. Et il y a très peu de gens qui pensent que c'est la destruction de Jérusalem, que tous les versets parlent de cela du début jusqu'à la fin. La plupart des gens, et théologiens aussi, vont penser au troisième, que certains passages parlent de la destruction de Jérusalem, d'autres passages parlent de la fin du monde, et puis que d'autres parlent des deux. Pour vendre la mèche, je vous dis que je suis plutôt de l'avis de première question, c'est-à-dire que tout parle de la destruction de Jérusalem, même s'il y a des passages qui sont difficiles à comprendre dans ce contexte, parce que nous n'avons pas la même vision des choses, nous utilisons pas le même vocabulaire que Jésus a utilisé à l'époque. Donc je vais vous essayer d'expliquer comment on peut voir les différentes choses et puis d'en tirer aujourd'hui un enseignement assez rapidement pour ce faire. Bon, quelles sont les choses qui nous montrent dans le texte qu'il y a des choses en faveur de l'année 70? Et ceci, je vais juste vous montrer ces différentes choses qui sont dans le texte même. Donc, quand je parle de l'année 70, je parle de la destruction de Jérusalem par les Romains, que Jésus a prédit. Par exemple, quand il est entré à Jérusalem le jour des Rameaux, le dimanche des Rameaux, il pleure sur Jérusalem et il dit que je vois que toi, ville, tu seras assiégée par tes ennemis. Ici, nous avons dans le verset 2, donc Jésus dit, « Vois-tu ces grandes constructions, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur le mont des Oliviers en face du temple. Donc, 2 choses. Il parle d'abord de ces temples. Il dit, « Je parle de ces pierres qui seront renversées. » Et puis, il se met en face du temple, donc sur le mont des Oliviers. Et il faut savoir qu'assis sur le mont des Oliviers, le temple est juste devant. C'est vraiment, la scène est là. Si vous êtes sur le mont des Oliviers aujourd'hui, vous allez voir le dôme du roc, c'est-à-dire l'un des lieux saints de l'islam, qui est juste en face, mais c'était là, probablement, qui était le temple. Donc, il dit que je parle de ces pierres qui vont tomber, je parle aussi des monts d'Olivier, et puis, notons bien que la question d'André, de Jean, de Jacques, de Pierre, c'est, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe annonçant la fin de toutes ces choses? Il faut savoir que cette nouvelle, pour Jean, Jacques, Pierre et André, bouleverse le monde. Ça bouleverse le monde. Les Juifs de l'époque ne croyaient pas que le temple pouvait tomber. Parce que si le temple tombait, c'était la fin d'Israël. Et ils ne pouvaient pas croire que c'était la fin d'Israël. Comme nous avons vu dans le psaume 137, n'est-ce pas, cet enseignement que comment pouvons-nous chanter les chants de Jérusalem si on n'est pas à Jérusalem? On ne peut pas faire cela. Et puis, le rappel à la fin de ce psaume, que Dieu, il va pas oublier Jérusalem. Pour le juif de l'époque, du premier siècle, c'était impensable que Dieu détruise Jérusalem, qu'il détruise le temple. C'était impensable. Ça n'entrait pas dans la pensée d'un juif du premier siècle. Comme ça n'entrait pas dans la pensée d'un israélite 6 siècles avant Jésus-Christ, quand les Babyloniens sont venus et ont détruit Jérusalem. Ça n'entrait pas dans leur esprit. Ils ne pouvaient pas imaginer cela. Deuxième chose que nous voyons, c'est que constamment, Jésus, la première partie de ce chapitre, il va parler de vous. Et notons bien, il parle aux 4, et puis peut-être à la fin aux disciples, aux 12. Il dit, quand vous entendez parler de guerre et de bruit, ne vous alarmez pas. Donc, il est en train de parler à son auditoire. Au verset 9, il dit, prenez garde à vous-même. On vous livrera au tribunal. Et là, il est en train de parler de la persécution des apôtres. Et vous serez battus de verges dans les synagogues. Est-ce que cela s'est passé? Nous nous souvenons qu'à un moment donné, les disciples étaient pris par le Sanhédrin et ils seront battus de verges. Nous savons aussi que c'était la même chose pour Paul et les autres missionnaires. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Pour nous, c'est très facile de voir au début que le contexte est mis, nous sommes en train de parler des choses qui allaient se passer au premier siècle quand les disciples allaient commencer à répandre la bonne nouvelle. On saute quelques passages, donc on va au verset 14. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que le lecteur fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Alors, juste deux choses que je veux vous montrer. Première chose, c'est l'abomination de la désolation. Là, nous sommes en train Jésus est en train de citer Daniel, chapitre 9, quand il parle effectivement d'une désolation, disons, non, en abomination de la désolation qui serait mise dans le temple ou dans un lieu saint, et que la destruction de la ville sainte allait se passer après. Donc, il est en train de citer quelque chose que Daniel avait vu quelques 400, 500 ans avant Jésus-Christ. Nous remarquons aussi qu'il dit que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Nous voyons que donc, c'est une destruction locale qui a lieu dans le pays de Juda. Si c'est la fin du monde, vous ne pouvez pas fuir dans les montagnes pour échapper au jugement. Ça marche pas. Jésus n'aurait jamais dit cela. Mais il dit ceux qui sont en Judée, qui fuient dans les montagnes. Par contre, c'est très intéressant qu'il y a quelqu'un, donc sans doute c'est Marc lui-même, qui écrit ces choses pour des gens qui n'étaient pas présents. Et vous avez vu ce qu'il a écrit. Il a écrit que le lecteur fasse attention. C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est pas Jésus qui dit cela. Il est en train de parler. Okay? Et donc, Jésus va pas dire... lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que le lecteur fasse attention. C'est pas Jésus qui dit cela, c'est Marc qui écrit cela. Et il veut leur donner une clé. Et la clé, c'est que quand il voit ce signe d'abomination, probablement c'est une idole romaine, probablement c'est l'entrée des forces dans la ville sainte de Jérusalem, donc les forces romaines. Quand il voit cela, il dit, il faut fuir dans les montagnes. Et puis, j'entends bien, il va dire, il faut le faire vite. Il faut le faire rapidement. Il faut pas traîner quand vous voyez cela. Et donc, et c'est tellement important qu'il dit, et que le lecteur fasse attention. Que le lecteur fasse attention. Au verset 18 et 20, j'entends bien, il dit au verset 20, et si le Seigneur n'avait abrégé ses jours, personne ne serait sauvé. Personne ne serait sauvé. Le jugement dernier ne sera pas abrégé. C'est quand il juge, il va juger. Tous seront jugés. Mais ici, il parle d'un moment de souffrance qui sera donc de court terme. Et ça, à cause des élus qu'il a choisis. Verset 28-31, on entend bien, nous sommes à la fin de ce discours, le verset 29. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver. Donc là, il est en train de parler à ses disciples. Ils allaient voir ces choses se passer. Vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, il est à la porte. Le Fils de l'homme est proche. On verra ce que cela veut dire. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. L'idée, c'est que les gens qui sont en train d'écouter de cette génération-là, ils allaient voir l'accomplissement de ces choses. Alors, on peut imaginer, si Jésus dit cela l'année 30, une génération était considérée par la plupart des gens à l'époque d'être 40 ans. Donc, nous sommes en train de parler de l'année 70, donc qui serait exactement le moment de la destruction de Jérusalem en main des forces romaines. Assez intéressant cela, de voir que Jésus, il prophétise, il prédit l'avenir pour que eux, ils ne soient pas étonnés par cela. Et puis, ce qu'il dit a eu lieu dans la génération qui suit. On peut regarder toutes ces différentes choses assez facilement. Il y a la déclaration de Jésus. Donc, lui, même a dit, je parle du temple. Il y a le mont des Oliviers. Ils sont en face du temple en train de parler de ces choses. Il y a la question, quand est-ce que ces choses vont arriver? Et quels seront leurs accomplissements? Les persécutions des Juifs contre les apôtres, les chrétiens juifs, ça on voit. L'aide du Saint-Esprit, c'est dans les actes pour dire ces choses, parce que Jésus va dire, ne vous alarmez pas, ne vous préoccupez pas de ce que vous allez dire. L'abomination de désolation qui vient de Daniel, qui prédit aussi la destruction de Jérusalem. La possibilité de fuir à la montagne, qui n'est pas un jugement général. Les sauvés, grâce aux sauvés, les jours seront abrégés, c'est-à-dire la souffrance ne sera pas très longue. Et puis, Jésus qui dit, cette génération ne passera point que tout cela. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses là, au début, à la fin, qui nous donnent quand même des indications que Jésus est en train de parler d'un événement historique qui allait se passer dans les années à venir, en parlant de Jérusalem. Bon, la question, c'est que, est-ce que c'est la seule chose dont il parlait? Et puis, si vous regardez, il y a aussi des arguments en faveur d'autres choses. Par exemple, la fin du monde, qu'est-ce que nous voyons ici, dans le verset 4? Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe annonçant la fin de toutes ces choses? Et une des choses qui peut se passer, spécialement quand on compare avec Matthieu et avec Luc, on peut dire, la fin veut dire la fin du monde. Ici, probablement, c'est très clair. La fin veut dire l'accomplissement de ces choses. Vous ne devez pas être d'accord avec moi, mais je crois que ce qui est important à voir, c'est que pour Jésus, il est venu pour accomplir la volonté de son Père. Et dans sa mort, sa résurrection, et dans son règne, il y a l'accomplissement d'une chose, il y a l'ère qui termine. C'est-à-dire, c'est l'ère de l'attente. Et donc, à un moment donné, même si Jésus est juif et tous les disciples sont juifs et tous les apôtres sont juifs et les premiers 5000 chrétiens, ils sont tous juifs. Malgré tout cela, à un moment donné, Dieu, il va balayer tout ce qui est sacerdoce, tout ce qui est temple. Tout cela, il va arrêter parce qu'il a mis en place Jésus-Christ et le vrai temple. Mais notons bien, il parle de la fin de toutes ces choses. Il me semble, en Marc, c'est très clair, la fin de toutes ces choses, c'est-à-dire la fin du temple, l'adoration, et d'Israël qui accomplit de cette manière-ci ce que Dieu a planifié pour lui. Le deuxième, c'est ici, dans le verset 13, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors là, on est d'accord, jusqu'à la fin, on ne peut pas nécessairement dire jusqu'à la fin du monde, parce que on va, soit Jésus va revenir, soit on va mourir avant la fin du monde, mais on persévère jusqu'à la fin de ces épreuves, jusqu'à la fin de toutes ces différentes choses. Donc attention dans les Écritures, quand nous lisons le mot « fin », il ne faut pas toujours dire « fin du monde ». Il faut regarder quel est le contexte. Et je crois que ça, c'est quand même assez clair ici. Mais il y a d'autres choses plus importantes qui sont quand même plus difficiles à expliquer. Et peut-être il y a d'autres possibilités. Le verset 19. « Car ce seront des jours de tribulation, tels qu'il n'y en a pas eu jusqu'à maintenant de semblables depuis le commencement du monde que Dieu a créé et qu'il n'y en aura jamais plus. » Donc là, il est en train de parler d'un événement exceptionnel et on est dans le superlatif. C'est-à-dire, on n'est pas dans « on verra plus jamais quelque chose comme cela ». Et si vous remarquez bien, et on va parler de cela après, c'est une possibilité de parler de la fin du monde, mais c'est une citation de l'Ancien Testament, une citation de l'Ancien Testament qui parle effectivement de la destruction de Jérusalem. Jésus reprend cela. Mais ça, on verra par la suite. Le verset 24. Alors, celui-là, difficile à expliquer, on va pas passer beaucoup de temps aujourd'hui là-dessus, mais il dit, mais dans ces jours, donc il est en train de parler de cette destruction qui arrive, après cette tribulation, la souffrance qui sera donnée au peuple, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Alors il enverra ses anges et rassemblera ses élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Et là, on dit, bah, ça c'est clair, il parle de la fin du monde, même si la question était pour la destruction de Jérusalem. Bon, j'espère aussi pouvoir parler de cela d'une autre manière, que oui, c'est une possibilité, peut-être ça ne change rien s'il parle de la fin du monde ou autre, mais de nouveau, nous allons voir que c'est une citation de l'Ancien Testament qui parle d'un jugement de Dieu contre les peuples rebelles, et c'est ça que nous verrons. Et puis, cette idée que l'homme, le Fils de l'homme qui va venir sur les nuées, c'est l'idée de Jésus qui juge. Jésus qui juge le monde sur lequel il est le roi. Pour les anges qui vont rassembler ses élus, c'est l'idée des Juifs fidèles à Dieu, que Dieu protège par ses anges. Et cela, nous allons voir. Donc, Jésus même va utiliser dans les paraboles, en parlant des Juifs, il va parler de ceux qui sont fidèles à lui, donc seront assemblés par les anges pour être sauvés. L'idée, c'est ils seront sauvés. Encore, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le connaît, pas même les anges dans le ciel, même pas le Fils et le Père seul. Et celui-là, on entend beaucoup, quand les gens prédisent le retour du Christ, on cite ce passage-là. Donc, c'est l'utilisation de ce passage qui nous fait penser que c'est la fin du monde, mais probablement, si on regarde, Jésus est en train de parler, le moment de destruction de Jérusalem, c'est Dieu seul qui connaît cela. Prenez garde, veillez, vous ne savez quand sera le moment. Et puis à la fin, donc verset 35, « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, le soir ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. » Donc quand est-ce que ça va se passer? Nous apprenons, en lisant les épîtres, qu'il faut être prêt. Parce que nous ne savons pas. Paul écrit à l'église de Thessalonique que c'est comme un voleur dans la nuit. Voici les différentes choses que nous voyons. Le mot « fin » qui est utilisé deux fois. Une tribulation jamais vue auparavant. Après cette tribulation, ce qui allait se passer. Les luminaires des cieux qui seront ébranlés. Donc vous voyez la lune qui ne donne plus ni le soleil. Les anges qui rassemblent les élus. Et puis, est-ce qu'on saura, est-ce qu'on saura pas? Cela, c'est un langage que nous utilisons souvent pour la fin. Donc, avec toutes ces différentes choses, nous pouvons voir que c'est difficile, juste en regardant, en lisant une fois cela, pour comprendre lequel des deux possibilités. Je n'ai pas mis plus à droite parce que c'est ce que je pense. C'est juste en allant à travers les textes et en choisissant les choses que j'ai mis. Mais cela vous donne l'idée que pour comprendre le passage, il faut qu'on l'étudie. Ce n'est pas à travers 25 minutes de juste une lecture simple que nous pouvons comprendre l'un des passages le plus difficile qui existe, spécialement à travers tous les commentaires qui ont été écrits là-dessus. Et il y en a plein. Il y a des commentaires entiers qui sont écrits seulement sur ce chapitre. J'aimerais juste vous donner quelques informations. Comme je vous ai dit avant, donc c'était construit par les Juifs dès leur retour en captivité. Vous vous souvenez que le temple a été construit quand il y a Zerubbabel qui est revenu avec un petit nombre de Juifs de Babylone. Et la première chose qu'ils ont voulu faire, c'était de poser les fondations du temple. Mais ils n'ont pas fini le temple. Ils ont posé les fondations et il a fallu des années pour eux de construire un temple pour louer Dieu. C'était pas grand, c'était pas un homme, c'était pas le temple d'Hérode. Hérode va rendre ce temple grandiose, mais c'était vers l'année 500 que cela a été construit. Après, Hérode le Grand commence les travaux 19 avant Jésus-Christ, j'avais dit 17, mais c'est 19. Il a continué cela après sa mort, parce que vous souvenez, il est mort juste après la naissance de Christ. Et puis, les travaux ont continué jusqu'à l'année 63, qui est terrible. Ça, c'est terrible. Quand on pense, toutes ces années de construction pour construire un temple à Dieu, tout ce qui était la fierté du peuple, 7 ans après sera détruit. Ça veut dire aussi que le temple était en construction quand Jésus a enseigné dedans. Et puis, c'était la plus belle construction de l'époque. Il y a des écrivains qui nous le disent. Et comme je vous ai dit, certaines pierres mesuraient 22 mètres fois 2,5 fois 3. Ça vous donne juste une petite idée de comment c'était au début. Donc ici, nous sommes en train de parler juste de cette petite partie ici. Et sans doute, Hérode donc a renouvelé, il a construit autour en gardant quand même les idées du temple de l'époque. Vous voyez que quand Jésus est venu, donc il y avait toute cette esplanade qui était là, avec la cour des femmes, avec les cours des païens, c'est là où il y avait les ventes des produits, etc. Et avec la présence ici à côté des Romains. Et quand nous voyons cela, donc ça devrait correspondre à ceci, au temps que Jésus est venu. Ça, c'est le temple d'Hérode. Il y en a qui pensent que toute cette partie supérieure, tout ce qui était en haut, était couvert d'or. Donc vous pouvez imaginer la richesse de cet endroit. Quand on finit avec cela, qu'est-ce qu'on peut voir? Et une des choses que j'ai fait dans ma Bible, c'est que j'ai souligné ce que Jésus, les conseils que Jésus a donnés. La première chose, c'est que si on parle de la destruction de Jérusalem, ou si on parle de la fin du monde, il y a certaines choses qu'on peut appliquer. Première chose, c'est prenez garde que personne ne nous séduise. Restons attachés à cet évangile que nous avons reçu. Il y a des gens qui vont venir et dire c'est pas assez, ou vont ajouter autre chose, ou qui vont dire il faut ajouter un autre enseignant là-dessus. Prenez garde que personne ne vous séduise. Deuxième chose, ne vous alarmez pas. Quand le monde est en train de tomber en ruine, Jésus dit ayez confiance en moi. Ayez confiance en moi. Même à travers les souffrances et les persécutions. Troisième chose qu'il dit, prenez garde à vous-même. Prenez garde à votre enseignement, à votre fidélité. Regardez vous-même. Quatrième chose qu'il dit, ne vous inquiétez pas d'avance. Il y a des choses que nous ne pouvons contrôler ni dominer. Et nous pouvons nous inquiéter, mais lui, il dit, donc, ayez confiance en moi. Cinquième, persévérons jusqu'à la fin pour être sauvés. À travers toutes les tribulations, les difficultés qui peuvent arriver, il faut qu'on fasse de cette manière. J'ai mis fouiller. C'est ça que Jésus a dit. Bon, on va pas fuir dans les montagnes, mais il y a des péchés que nous devons fuir, des choses que nous devons laisser derrière nous. Il y a prier, au verset 18. Et quand nous sentons cette pression, persécution, ou crainte pour l'avenir, nous pouvons prier. Puis, ne croyez pas au message de faux Christ. Les librairies sont remplies de livres de faux Christ, de faux gourou, des gens qui veulent nous influencer comment vivre. Mais nous devons rester attachés au vrai Christ. Soyons sur nos gardes, il dit, et veillez et craignez. Si on parle de la fin du monde, ou si on parle de la fin de Jérusalem, l'année 70, ces exhortations sont applicables aujourd'hui, dans le sens que nous voyons le monde différemment que les autres. Juste pour finir pour aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'année 67, 68 et 69, il y a des chrétiens juifs, comprenez bien, des chrétiens juifs, que eux, ils ont prêté attention à ces choses-là, fidèles jusqu'au bout, et ils ont reconnu en des choses qui se passaient avant l'année 70, les prophéties de Jésus qui se réalisaient. Et ils se sont sauvés. Ils ont fui dans les montagnes. Ils ont quitté la ville de Jérusalem. Ils étaient appelés, pas des rats, mais des gens qui n'étaient pas patriotiques ou des gens qui n'étaient pas, prenaient pas de responsabilité du peuple de Dieu. Mais ils ont obéi à Jésus quand ils ont fait ces choses. Et grâce à cela, ils ont pu continuer à vivre pour le Christ et être ses témoins. Jésus dit ces choses pour épargner son peuple, pour que son peuple ne souffre pas si on peut l'éviter. Souffrir pour l'évangile, oui. Souffrir tant que pour les péchés d'un peuple incrédule, non. Donc voilà ce que nous avons pu voir aujourd'hui. À la prochaine fois, on va voir un peu plus en détail les différentes choses. Donc, n'hésitez pas à relire ce chapitre. Venez avec vos questions. Et ce que vous pouvez faire, c'est utiliser juste trois couleurs, par exemple. Une couleur pour parler des choses qui parlent du temple, des choses qui sont plutôt peut-être vous pensez à l'avenir, et puis les conseils que Jésus donne à ses disciples que nous pouvons appliquer aujourd'hui.